Bonjour à tous. Je suis heureux d'être là ce matin parmi vous. Je suis heureux de voir tous ces visages que je connais, même ceux que je ne connais pas, parce qu'il y a quand même une chose qui nous rallie tous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est toujours une joie d'être parmi des frères et sœurs. On peut considérer les ordinateurs et Internet comme étant les deux plus grandes inventions de cette dernière décennie. Avant, les ordinateurs, ils étaient si obsolètes qu'on pouvait pas faire grand-chose avec, si ce n'est que du traitement de texte ou encore faire tourner quelques jeux. Et je me rappelle de mon vieil Amstrad, qui était l'ordinateur qui était à la mode dans les années 90, un petit peu avant. Et ce vieil ordinateur, je me rappelle, il m'a été utile. Mais combien aussi il me faisait friser la folie quand il plantait 9 fois sur 10. Aujourd'hui, c'est fou tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur. Mon Amstrad, il a été vite dépassé par des générations qui sont venues après. Et comme on le sait, ces ordinateurs ont été de plus en plus fiables, plus performants, plus puissants. Et aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur, c'est vraiment fou. On peut visionner des films, on peut communiquer, on peut faire pas mal de choses avec un ordinateur. Bien sûr, ce matin, je ne suis pas là pour parler d'ordinateur et d'Internet, bien sûr. Et vous devez vous demander où est-ce que je veux en venir. Ce que je veux dire, c'est pas que Jésus est comme Internet et que nous sommes des ordinateurs. Mais pour que mon ordinateur devienne meilleur, souvent j'ai besoin d'être connecté à Internet pour télécharger un correctif ou un patch qui rendra mon PC meilleur. Eh ben, autant pour moi, pour que je puisse devenir meilleur dans ma vie en Christ, eh ben, mes chers frères et sœurs, je dois rester fermement attaché à Jésus-Christ. Et en ce matin, on va voir dans une parabole trois raisons pour lesquelles nous devons rester fermement attachés à Jésus-Christ. La première raison, c'est pour porter du fruit. La deuxième raison, c'est pour porter plus de fruits. Et la troisième raison, c'est pour porter beaucoup de fruits. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. Jean chapitre 15. Et nous lirons les versets 1 à 11. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai écrit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Il est important de se concentrer sur le contexte de cette histoire. Bien sûr, cette parabole, elle vient pas ici à tout hasard. Elle est prononcée juste après le discours de la chambre haute. Vous savez, le discours de la chambre haute, c'est ce dernier discours que Jésus-Christ a pu annoncer le soir de la Pâque avant qu'il ne meure sur la croix pour nous. Et vraiment, dans ce discours de la chambre haute, il leur lave les pieds, il leur annonce aussi la trahison de Judas, le reniement de Pierre, sa mort. Il annonce également son retour en gloire, il leur donne une très belle promesse, la venue du Consolateur, le Saint-Esprit en fait, qui devait être en quelque sorte celui qui devait venir pour combler l'absence du Seigneur Jésus-Christ. Et puis vient notre parabole en Jean chapitre 15. L'ensemble de ces discours, en fait, ils forment un tout. Ils forment un tout. Ils ont un but général. Ils ont pour but d'amener à la fois ceux qui sont encore loin du Seigneur et le deuxième but, d'affermir ceux qui sont déjà en Christ, ceux qui sont déjà chrétiens. Et pourquoi? Ben pour qu'ils puissent grandir dans leur foi, pour qu'ils puissent avoir une certaine maturité en Christ. Voyons maintenant la première raison pour laquelle nous devons rester fermement attachés en Christ. Et cette première raison, c'est pour porter du fruit. Jésus commence cette parabole au verset 1 et 2. « Je suis le vrai cep, et mon Père, le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. » Et vraiment, cette déclaration « Je suis le vrai cep », eh bien, c'est la septième déclaration que l'on peut retrouver dans l'évangile de Jean, qui commence par « Je suis ». On a en Jean 6, 35, « Je suis le pain de vie ». En Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde ». En Jean 10, verset 9, « Je suis la porte ». En Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger ». En Jean 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie ». En Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et puis notre dernière déclaration, en Jean chapitre 15, verset 1er, « Je suis le vrai cep ». Ces affirmations ont vraiment un grand sens. Elles ont du sens tout d'abord pour Israël, parce que être le vrai cep, ça a vraiment un sens pour eux. En effet, Israël, vous savez, elle était la vigne que l'Éternel s'était choisie. Elle était la vigne à laquelle que Dieu lui accordait tout son soin et tout son amour. Il y a beaucoup de passages dans l'Ancien Testament qui le prouvent. Je vais juste citer un passage caractéristique dans Ésaïe chapitre 5, verset 7. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Ils avaient espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Et Dieu désirait ardemment que sa vigne porte du bon fruit, mais elle n'avait porté que du mauvais raisin. Et ce que Jésus-Christ voulait enseigner par cette déclaration, « Je suis le vrai cep », eh bien c'est qu'il est exactement qu'il est celui qui permet d'accomplir ce que Israël devait faire, et qu'il est aussi le véhicule qui permet d'accomplir ce que Israël devait faire. Il est bien sûr le seul vrai cep dont font partie les sarments que le Père ne retranche pas. Mais, au-delà de ça, il porte du bon fruit. Et si cette déclaration a du sens pour Israël, mes chers frères et sœurs, elle a autant de sens pour nous. Nous n'avons pas besoin d'être une lumière pour pouvoir comprendre ce que véhicule cette image. Surtout que nous faisons partie d'un pays et d'une région qui est particulièrement viticole. Je me rappelle, quand j'étais en première année à l'Institut biblique, j'ai eu un stage à Béziers. Et je me rappelle, là-bas, il y avait un frère qui avait une vigne. Et un jour, il avait besoin d'un coup de main et il m'a demandé de l'aider. Et je suis parti l'aider, et c'était pas pour la vendange, c'était justement pour la coupe de ses sarments. Et vous savez, après quelques heures de travail, je lui ai demandé, mais pourquoi on coupe ses sarments? À quoi ça sert? Et il m'a expliqué qu'en fait, on coupe les sarments, pourquoi? C'est pour que la sève qui est diffusée dans le tronc, c'est pour que le raisin, il puisse profiter un maximum de cette sève. Une deuxième raison qu'il m'a donnée, c'est pour que le soleil puisse vraiment empêcher à l'humidité de rentrer sur les raisins et sur le cep, pour qu'il ne soit pas porteur de moisissures et de pourriture. Et ces raisons, elles sont à quelques détails près les mêmes que celles du Seigneur, que celles qu'il nous présente ici dans cette parabole. Il est vrai que pour qu'un sarment puisse porter du fruit, il faut qu'il soit attaché au cep. Et il en va de même pour nous chrétiens. Si nous ne sommes pas attachés à Jésus-Christ, si nous ne sommes pas fermement attachés à Christ, eh bien, nous ne pouvons porter du fruit. Tant bien même qu'on peut se considérer comme une personne qui a une bonne éducation, comme quelqu'un qui a une bonne morale, il est impossible de porter du fruit si nous ne restons pas fermement attachés à Christ. Et je dirais que c'est là où est toute la problématique. Regardons ce que Ézéchiel chapitre 15, verset 3 nous dit. Qu'est-ce qu'on fait avec le sarment qui ne porte pas de fruits? Ézéchiel chapitre 15, verset 3. On peut lire à partir du verset 1 aussi. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, le bois de la vigne, qu'a-t-il de plus que tout autre bois? Le sarment qui est parmi les arbres de la forêt, prend-on de son bois pour en fabriquer un ouvrage? En tire-t-on une cheville pour y suspendre un objet quelconque? Voilà, on peut comprendre, mes chers frères et sœurs, qu'on ne peut rien faire d'utile avec le bois du sarment, qui ne porte pas de fruits. Et c'est vraiment la même chose pour celui qui déclare suivre Jésus-Christ et qui n'a pas encore porté du fruit. Ainsi, le Seigneur poursuit cette parabole en disant au verset 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, eh ben, il le retranche. Il le retranche. » J'apporterai une petite précision à ce verset. C'est comme dans toute vigne. Il y a un sarment qui est gorgé de vie. Il devient porteur. Et il y a à côté un sarment qui est mort et qui ne porte aucun fruit. Et le sarment qui est gorgé de vie, il représente bien sûr le disciple qui est authentique, un vrai disciple de Christ. Et le sarment qui est mort représente toute personne qui prétend suivre Jésus-Christ sans avoir été régénéré. Vous me direz, mais comment est-il possible de suivre Jésus-Christ sans avoir été régénéré? Eh bien, sachez qu'il est possible de se masquer derrière les traits d'une religion et de ne pas suivre Jésus-Christ. Il est possible de fréquenter une assemblée et de ne pas être passé par cette première étape d'avoir été régénéré. Et il y a au moins un personnage dans la Bible qui illustre très bien cela, c'est Judas l'Iscariote. En Jean chapitre 13, au verset 10, on peut prendre ce passage aussi, verset 10 et 11, Jean 13, verset 10 et 11. On peut dire, Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Et c'est un fait indéniable. Judas incarne vraiment ce disciple qui n'avait pas été régénéré au préalable. Judas était dans la présence du Seigneur. Ses yeux l'ont vu. Il a marché avec lui. Il a été enseigné par Christ, mais pourtant, il n'avait pas été régénéré. Je ne veux pas semer le trouble dans l'assemblée en ce matin, ou jeter de l'huile sur le feu, comme on dit. Mais la parole de Dieu nous interpelle dans ce sens en ce matin. Les véritables questions que l'on devrait se poser, c'est est-ce que je suis un disciple authentique de Christ? Ou est-ce que je suis un sarment qui est mort? Et c'est facile de répondre à ces questions, à cette question, vous savez. Parce que la Bible nous dit aussi que l'Esprit que Dieu nous a donné, eh bien, il témoigne en nous-mêmes, il nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu. Les premiers fruits qu'un disciple doit porter, vous savez, ce sont ces fruits qu'on appelle les fruits dignes de la repentance. Ce sont ces fruits qui nous font reconnaître que nous sommes pécheurs, ces fruits qui nous font regretter amèrement notre péché, et ce sont ces fruits aussi, c'est ce fruit qui me donne envie de faire un véritable volte-face, vraiment faire ce demi-tour dans ma vie. Et c'est là la marque authentique d'un disciple de Christ. C'est la marque d'un disciple authentique de Christ. Bien sûr, la repentance, on n'y revient pas qu'une seule fois. On n'y revient pas qu'une seule fois. Le vrai disciple aussi, c'est celui qui comprend que son état de pécheur, les péchés qu'il commet jour après jour, qu'il doit revenir encore à la croix, qu'il doit revenir aux pieds du Seigneur, lui demander pardon, et bien sûr lui confier ce souci, afin qu'il puisse nous aider à le changer. Et vous savez, c'est la première étape pour pouvoir se débarrasser de tous les péchés, de toutes les choses qui nous empêchent d'aller plus loin avec le Seigneur. Parce que quand je m'approche de lui dans la prière, je peux lui demander pardon pour mon péché, mais je peux aussi lui dire, Seigneur, viens m'aider et traite ma vie. Traite ce péché qui est dans ma vie qui m'empêche d'aller plus loin avec toi. Nous avons vu la première raison pour laquelle nous devons rester fermement attachés à Christ. Cette première raison, c'est pour porter du fruit. Voyons maintenant la deuxième raison, c'est pour porter plus de fruits. À la fin du verset 2 et 3, on peut lire Jean chapitre 15. Verset 2 et 3, on peut lire la fin du verset 2 et 3. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. On l'a vu. C'est la raison d'être d'un sarment. Il doit porter du fruit. À quoi nous sert la vie, à quoi nous sert une vigne qui ne porte pas de fruits? Autant y mettre le feu dedans. Ézéchiel chapitre 15 verset 4 à 5 nous dit la suite du passage que nous avons pris tout à l'heure. Voici, on le met au feu pour le consumer. Le feu en consume les deux bouts et il brûle. Sera-t-il bon à quelque chose? Voici, lorsqu'il était entier, on n'en faisait aucun ouvrage, combien moins lorsque le feu l'a consumé et qu'il est brûlé, on pourra en faire quelques ouvrages. Et il en va de même pour la vie chrétienne. À quoi serais-je utile au Seigneur si je n'ai pas déjà porté du fruit? Je ne suis bon à rien. Je suis juste bon à être jeté au feu. Et le verset 6 le poursuit en disant, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. L'image est claire. L'image est claire ici. Le sarment qui ne porte pas de fruits, il est jeté dehors, il sèche, et on le jette au feu. C'est un passage qui est difficile. C'est certains théologiens le prennent pour affirmer que on peut perdre son salut. Mais je ne l'affirmerai pas du tout dans ce sens. Je ne crois pas à la perte du salut. Il y a beaucoup trop de portions de l'Écriture qui nous affirment le contraire. Éphésiens chapitre 1 verset 13 nous dit clairement que le Saint-Esprit, nous avons été scellés du Saint-Esprit et que cet Esprit Saint qui est en nous, c'est même un gage de notre rachat, un gage de notre rédemption. Jésus-Christ a lui-même dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne quoi? La vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Jean chapitre 10, versets 27 à 28. Jésus nous donne la vie éternelle une bonne fois pour toutes, et ça, c'est le gage de notre sécurité. Nous sommes en sécurité en Christ. Mais nous devons voir le fait d'être jetés dehors est quelque chose qui ne peut pas nous arriver si nous avons fait la paix avec Dieu. Mais cependant, c'est la condition de toute personne qui n'a pas fait la paix avec Dieu. La chose qui est belle dans ce passage, c'est ce qui arrive au sarment qui est porteur. Au sarment, au disciple authentique qui a déjà demandé pardon au Seigneur et qui a fait un volte-face. C'est beau ça. Une chose magnifique à voir dans ce texte, c'est l'action du viticulteur. Et ce viticulteur, c'est qui? C'est Dieu. Ici, dans le texte, c'est Dieu qui est à l'initiative. C'est lui qui veille sur sa vigne, c'est lui qui coupe les sarments qui sont porteurs. Pourquoi? Pour qu'ils puissent porter plus de fruits. Et ça, c'est pas beau ça, mes chers frères et sœurs? C'est Dieu qui est acteur dans nos vies, qui permet que nous portions du fruit, il nous purifie de toutes nos souillures, et il nous aide à porter davantage de fruits. Si les fruits dignes de la repentance sont les premiers fruits que nous avons portés, ils ne sont pas les seuls. Nous devons encore en porter. Et tout disciple de Christ sait très bien qu'il doit porter davantage de fruits. Parce que c'est ce que Dieu veut. Et il le désire. Et c'est là toute la beauté de l'évangile. Dieu nous sauve. Oui, c'est une chose. Mais il est aussi celui qui nous aide à marcher, pas à pas, et à grandir à ses côtés. Comment fait-il pour que nous puissions porter du fruit? Eh bien, rien de plus simple. Comme un viticulteur, à l'aide d'une serpette, il coupe le sarment. En gros, ce qu'on peut dire avec ça, c'est que Dieu permet parfois que des épreuves nous atteignent. Et il permet parfois aussi que des châtiments nous atteignent. Et c'est ce qui prouve la réalité de son amour pour nous. La Bible nous dit en Hébreux 12, chapitre 11, « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Jacques le frère du Seigneur n'a-t-il pas dit aussi, Jacques chapitre 1, versets 2 à 3, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Le raisin ne profite pas de la sève, si les sarments n'ont pas été coupés. Il en va de même aussi pour nos vies. Parfois, sans épreuve, nous ne grandissons pas. Sans châtiment, parfois, nous ne grandissons pas. Je n'aime pas dire ça. Qui aime les épreuves? Mais les épreuves nous aident à grandir. Rappelons-nous de l'histoire de Job. Job n'était-il pas un homme qui était intègre? La Bible le qualifie qu'il était un homme intègre. Mais est-ce qu'il avait fini de grandir dans sa marche avec Dieu? Je ne pense pas qu'il avait fini de grandir. Parce que Dieu lui a demandé des comptes. Au chapitre 42. Dieu lui dit, on peut regarder ce texte aussi. Job 42, versets 3 à 6. Job 42, versets 3 à 6. Ici, c'est un dialogue. Dieu dit à Job, « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?» Et Job répond, « Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Dieu n'avait pas infligé cette épreuve à Job pour qu'il puisse être dans la tristesse, pour qu'il soit dans la peine, mais c'était pour qu'il puisse grandir, pour que ce fruit de repentance éclate dans sa vie, pour qu'il puisse grandir dans sa foi et dans sa maturité, dans sa marche avec le Seigneur. Mes chers frères et sœurs, Dieu est celui qui veut travailler dans nos vies. Il veut travailler dans ta vie pour que tu puisses porter plus de fruits. Mais qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela implique pour nous en tant que disciples de Christ? Eh bien, mes chers frères et sœurs, quand nous sommes dans l'épreuve, crions au Seigneur. Si nous nous plaignons, Je ne vous dirai pas de ne pas vous plaindre, mais si vous vous plaignez, plaignez-vous au Seigneur, criez vers lui et fixons nos regards sur lui. Nous l'avons chanté ce matin, il nous conduit dans la joie et dans la tristesse. Il ne nous délaisse pas et sachons que Dieu nous tend toujours sa main. Et même au sein des épreuves, même lorsque notre amour faiblit, l'amour de Dieu, il ne faiblit jamais. Il ne faillit jamais. Et il y a une chose qui est merveilleuse en Christ. C'est qu'au bout de toutes nos peines, il y a la gloire. Il y a la gloire. Être en Christ, c'est un gage de victoire. Et non de défaite. Nous avons vu deux raisons pour lesquelles nous devons rester fermement attachés à Christ. La première, c'était pour porter du fruit. La deuxième, c'est pour porter plus de fruits. Voyons maintenant cette dernière raison. C'est pour porter beaucoup de fruits. Jésus déclare une fois de plus au verset 5 de Jean chapitre 15. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quoique Jésus il allait mourir sur la croix après ce discours, quoiqu'il ne serait plus avec les disciples physiquement, il souhaitait que les disciples puisse comprendre quelle est la voie par excellence pour porter du fruit et pour porter beaucoup de fruits. On ne peut lire ce texte sans remarquer cette certaine progression qu'il y a dans la vie du disciple. Il porte du fruit au départ, il porte plus de fruits dans sa maturité et il doit encore en porter beaucoup. Et en effet, c'est Christ qui veut cela, c'est Dieu qui veut cela dans nos vies. Il veut que nous portons du fruit, plus de fruits et beaucoup de fruits pour sa gloire. En Christ, il n'y a pas de chômeur. Ça nous appelle aussi à travailler afin de grandir dans sa grâce. Et pour arriver à ce résultat, il y a un maître mot dans ce passage. Il a été répété tant de fois, j'ai pas compté, mais c'est ce mot demeurer. Il revient beaucoup de fois. Ça vient du grec meno qui veut tout simplement dire tenir fermement une position. Et il est vrai que si le Seigneur n'était pas actif dans nos vies, je crois que nous aurions été tous sur le carreau. Mais Dieu, il travaille activement dans nos vies. Et c'est ce qui nous permet de grandir en maturité et de gagner, d'avoir de grandes victoires sur nous-mêmes et sur notre péché. Lorsqu'on fait une étude biblique sur le fruit dans la Bible, il y en a plusieurs, mais on va en retenir deux principaux. Ce matin, nous avons déjà parlé du fruit de repentance. Mais il y a aussi un autre fruit qui doit être visible dans la vie du disciple. Et vous savez que je suis en train de vous parler du fruit de l'esprit. Galates 5, 22 nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et je crois que ce fruit, vraiment, il nous laisse tous à réfléchir sur notre condition de disciple. Car qui aime tout le temps? Qui est tout le temps joyeux? Tout le temps doux? Empreint de bonté et de bienveillance envers son prochain? Et maître doux, je l'ai dit, maître de soi? Mais cela ne veut pas dire que ce ne sont des choses qui ne sont pas à notre portée. Au contraire, si Dieu nous le demande, si Dieu nous l'exige, c'est parce qu'il nous a déjà tout donné, il nous a déjà donné ce qu'il faut pour que nous puissions acquérir ces choses. Mais dans l'exercice, comment on y arrive? Eh bien, mes chers frères et sœurs, c'est dans l'intimité qu'on veut bien consacrer au Seigneur chaque jour. On y parvient dans le temps de la prière, dans la prière que nous voulons bien donner au Seigneur et dans la méditation de sa parole. Vous savez pourquoi nous manquons de qualité dans nos vies parfois? C'est parce que ces deux moteurs de la foi, on les néglige. et on les remplace par autre chose. Un pasteur m'a dit un jour, Olivier, on ne porte pas beaucoup de fruits quand on donne des miettes au Seigneur. On ne porte pas de fruits quand on retient ce que l'on doit donner au Seigneur. Et c'est une réalité. C'est dans l'intimité que l'on passe avec le Seigneur que l'on devient un serviteur, un disciple authentique de Christ. Selon vous, comment tous ces grands serviteurs que la Bible nous montre, comment ils ont pu être des serviteurs qui ont marqué leur temps et leur époque? Regardons par exemple à Esdras. Comment aurait-il pu créer un réveil au sein de sa génération si lui-même il n'avait pas travaillé activement à sa vie avec Dieu? Esdras 7, verset 10 nous dit, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier les Écritures et à mettre en pratique les lois et les ordonnances et à les enseigner, à enseigner les lois au milieu d'Israël. Et c'est une réalité, c'est en étudiant la parole de Dieu et en la mettant en pratique que l'on porte beaucoup plus de fruits. Comment Pierre a-t-il pu être aussi le disciple que Dieu attendait de lui? Pierre est un homme sur lequel on peut regarder. C'est l'homme qui a renié le Seigneur, mais c'est aussi l'homme que Dieu lui a donné l'accès, que Dieu lui a donné les clés des portes de l'Église. Et Pierre, il l'est devenu, non pas en se tournant les pouces. La Bible nous montre qu'il avait une vie de prière. Quand Pierre était parti à la rencontre de Corneille, mais qu'est-ce qu'il avait fait? La Bible nous dit, acte 10, verset 9, qu'il était monté sur le toit à la sixième heure. Il s'était retiré et il avait prié. Jésus-Christ lui-même, quand il est venu sur terre, en limitant sa divinité, il cherchait constamment le Seigneur. Et ça, c'est vraiment un exemple pour nous. Ce sont vraiment des exemples pour nous. Ma grande question ce matin pour vous, mes chers frères et sœurs, et pour moi-même, est-ce que tu veux porter du fruit? Eh bien, si tu veux porter du fruit, le fruit ne s'obtient pas lorsqu'on se tourne les pouces, mais il s'obtient lorsque l'on cherche vraiment à demeurer dans sa présence. Le fruit, on ne l'obtient que si on sacrifie du temps avec le Seigneur, le temps qu'on veut bien lui sacrifier, bien sûr. Et voilà je terminerai par deux applications concrètes. Deux applications concrètes, c'est vraiment d'être des Esdras et être comme Pierre. Être quelqu'un qui applique son cœur à vouloir bien étudier la parole, la méditer et la mettre en pratique. Et être comme Pierre. Fixer nos regards constamment sur Christ, prier, le rechercher à travers la prière et lui demander son secours, bien sûr. Jésus poursuit ce passage de Jean chapitre 15. Les versets 7 à 8, on peut lire, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. » Et oui, notre intimité avec le Seigneur, eh bien quoi, elle est récompensée. Il n'y a rien de mystique à cela. Le disciple authentique de Christ connaît les Écritures, il sait énoncer des prières qui sont en accord avec la volonté de Dieu. Et donc, ce disciple-là aussi a pu développer une foi nécessaire pour recevoir les bienfaits de Dieu. Et je dirais, mes chers frères et sœurs, qu'il y a un grand bénéfice à connaître la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand j'énonce une prière, eh ben je sais qu'elle est déjà exaucée. Je peux être sûr qu'elle est déjà exaucée. Et c'est une chose qui devrait faire notre joie, de savoir que Dieu nous écoute et qu'il répond à nos prières, bien avant même que nous ayons reçu quoi que ce soit de lui. En gros, on peut dire que demeurer en Christ, ça a vraiment du bon. Pourquoi? Parce que ça nous permet de porter beaucoup de fruits, et Dieu d'un côté, il est glorifié. Et au final, ça nous cause à nous, pour nous, dans nos vies, une grande joie une entière satisfaction. Versets 9 et 11. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je crois vraiment que ces derniers versets sont des guides pour notre foi. Ils nous montrent ce que nous devons faire pour rester dans l'amour de Dieu. Eh bien, nous devons faire deux choses. Être véritablement obéissant et dépendant du Seigneur. Et les deux sont liés, mes chers frères et sœurs. Parce que quand je suis dépendant du Seigneur, ça va créer forcément en moi l'obéissance. La vie en Christ, ce n'est pas nous qui permettons que ce soit possible. Mais c'est Jésus-Christ lui-même. Vraiment ce matin, j'espère que vous avez été édifiés. Mais toutes ces choses, je les ai dites afin que nous puissions rester fermement attachés à Jésus-Christ. Parce que c'est là la clé de toute victoire. Et c'est là la clé de toute gloire en lui. Soyez bénis. Je terminerai par la prière.